Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et avant l'épisode d'aujourd'hui, consacré donc aux guerres de l'information avec Maud Guessard et Maxime Audinet, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau l'ami Joseph-Henri Rotin, notre bien-aimé partenaire du magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, pour nous parler de ce nouveau numéro, donc numéro 151, de janvier-février 2021, qui vient de sortir, qui est tout frais en kiosque donc. Donc bonjour Joseph.
Bonjour.
Et donc, au sommaire de ce numéro 151, alors plein de choses, comme toujours les numéros réguliers, c'est vraiment beaucoup de variables, mais notamment un grand dossier consacré à un sujet, à des unités dont on parle peut-être assez peu, que sont les commandos britanniques, les Royal Marines. Alors expliquez-nous ce que c'est ce panorama, c'est-à-dire quelles sont les grandes évolutions des Royal Marines de ces dernières années et des années à venir qu'il fallait détailler, sur lesquelles il fallait faire le point.
Alors, en fait, les Royal Marines, basiquement, c'est de l'infanterie de marine. Hein, ce sont les troupes de marine britanniques. En réalité, leur focale principale, si vous voulez, c'est vraiment les opérations amphibies. Hein, donc le débarquement de vie-force.
Donc l'équivalent des commandos marines un peu en France.
L'équivalent des commandos marines, alors pas tout à fait, parce que les commandos marines ont une vocation force spéciale que n'ont pas nécessairement les Royal Marines, qui sont en fait plutôt une force d'élite, qui est plutôt comparable en fait au Marine Corps américain, en l'occurrence, ou alors à la 6e BLB des grandes heures amphibies, on va dire, hein, donc notre 6e brigade légère blindée. Donc il y a vraiment une focale amphibie marquée. Donc c'est vraiment au cœur des Marines. C'est tout l'imaginaire de la guerre des Malouines, etc. Hein, donc voilà.
C'est-à-dire de ces fortes troupes d'élite qui débarquent pour reprendre un territoire, etc. Rapidement, efficacement et promptement.
Tout à fait. Et qui ont eu pendant tout un temps, comme les Marines américains d'ailleurs, leur propre micro-force d'hélicoptères pour les appuyer, les blinder, etc., etc. Mais avec la question très actuelle, finalement, de la réforme, si vous voulez, la nouvelle réforme des forces armées britanniques, donc leur revue de défense stratégique, si vous voulez, qui doit produire ses résultats début d'année, ici, en 2021, elle a été repoussée pour cause de Covid, et il avait été question, dans les hypothèses de travail pour réduire les coûts de l'appareil de défense britannique, carrément de supprimer une brigade de Royal Marines, ce qui est quand même...
Une sur combien ?
Une sur 1,5, en sens où vous avez la brigade en tant que telle, et puis vous avez des unités annexes, et donc n'aurait resté que quelques unités annexes, dont le destin aurait été par ailleurs de rejoindre la British Army. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'hypothèses qui étaient mises sur la table, et d'ailleurs au niveau de...
Ouais, ils sont capables de remodeler fortement quand même en Angleterre, quand il s'agit de changer la voilure.
Ah, l'élimination des chars de bataille est sur la table, par exemple. Hein. Donc il y a une espèce de dichotomie qui a été faite par le chef d'état-major britannique entre les Sunshine Capabilities, donc qui en fait sont des technologies qui sont des capacités plutôt qui sont perdantes, entre guillemets, hein, celles qui vont passer à la trappe. Potentiellement les chars d'assaut, quelques dragueurs de mines, etc., etc. La question éventuellement des véhicules de combat d'infanterie, donc les gens voient large. Et d'autre côté, la question des Sunshine, donc des technologies plutôt émergentes cette fois-ci. Alors le cyber, l'IA, des capacités de guerre hybride, etc., etc. Et donc il y a des arbitrages qui doivent être faits. Et les Royal Marines se retrouvent en fait au beau milieu de cet arbitrage-là, où d'un côté il y a tout le narratif global britain, hein, donc le Royaume-Uni post-Brexit, mais qui doit se positionner sur la scène mondiale. Évidemment, la traduction militaire de ce positionnement, c'est aussi de disposer de forces expéditionnaires. Et traditionnellement, les forces expéditionnaires, c'est les Royal Marines. Et puis d'un autre côté, les impératifs de coût, avec une bosse budgétaire britannique qui est absolument gigantesque, donc la nécessité de tailler dans les capacités, sachant que les Britanniques dépendent également d'achats qui sont faits aux États-Unis et qui sont donc impactés directement par les variations en fait des coûts de change. Et donc avec toute une série de questionnements sur le fait que est-ce qu'on va compléter tout le programme F-35, est-ce qu'on va les moderniser au moment où il faudra les moderniser, etc. Donc ils sont vraiment dans une situation extrêmement complexe. Et donc les Royal Marines, la réponse finalement qui tend à être adoptée, c'est de dire on va abandonner le combat amphibie classique, entre guillemets, on met tout le monde sur des barges de débarquement, et puis on arrive sur la plage, et puis on crée une tête de pont, et puis ensuite... l'armée exploite, pour rentrer dans une logique beaucoup plus commando, en l'occurrence, avec beaucoup d'expérimentation, de compagnies un peu expérimentales, on va dire, au sein des Royal Marines, pour tester de nouveaux concepts, axés sur l'aéromobilité, axés sur, des plageages, donc le fait d'arriver sur les plages d'une manière plus dispersée, reconcentrée, etc. Donc il y a beaucoup d'essais qui sont faits, avec derrière ça, la question... éternel, évidemment, dès qu'on passe sur un mode commando, c'est OK, c'est utile, ça permet de créer des effets stratégiques, mais jusqu'à quel point ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réellement combattre une force vive adverse avec cela ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas trop léger à un moment donné ? Est-ce que c'est pas trop commando ? Les commandos peuvent faire des choses, mais ne peuvent évidemment pas tout faire. Donc, il y a énormément de débats qui se font là-bas. C'est intéressant, en particulier pour nous, en France, dès lors qu'on est sur une focale de combat de haute intensité. Donc, la question qui est là derrière, c'est est-ce qu'on pourra, nous, continuer aussi à compter sur nos camarades britanniques.
Et alors un deuxième dossier, une deuxième question qui est posée dans ce numéro 151 de DSI, mais qui n'est pas totalement déconnectée, puisque c'est toujours une problématique de coût, c'est une problématique, disons, d'efficience des moyens. C'est la question, c'est une chronique, disons, de Renaud Bellet, qui pose la question de l'augmentation tendancielle, mais assez stable et assez persistante, des coûts de maintenance des appareils, dont on sait que c'est très problématique, parce qu'il y a les programmes d'achat, etc., ça, on peut en parler, et c'est une question importante, mais ensuite il y a le coût de maintenance derrière, qui est souvent invisibilisé derrière les gros chiffres d'achat et de développement. Et donc le constat fait par Renaud Bellet, qui est donc économiste, c'est que tout ça, ça a tendance à augmenter sur le temps long, et que ça pose des problèmes.
Alors oui, effectivement. Alors Renaud revient dans le détail et d'une manière qui est beaucoup plus pertinente que je pourrais jamais le faire. Mais ce qui est très intéressant derrière cela, c'est que ce n'est pas qu'une problématique d'ordre technique. C'est-à-dire que dès lors que en France on revient vers la haute intensité, évidemment, il faut que les matériels soient disponibles. Qui dit haute intensité dit masse, qui dit masse dit matériel qui doit être opérationnel. Et là, en l'occurrence, on paye, entre guillemets, tout ce qu'on a pu voir depuis 2008, depuis le livre blanc de 2008, où effectivement, les budgets, quand ils étaient disponibles, sont allés plutôt vers des achats de nouvelles capacités, et en se disant, après, on verra bien, l'intendance suivra, entre guillemets, et cette intendance, c'est le MCO.
Et MCO, c'est le maintien en condition opérationnelle. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'idée que les appareils sont là, mais il faut qu'ils soient disponibles à un moment donné quand on en a besoin, quoi.
Exactement. Et en sachant que si dans les unités, il y a un peu de maintenance qui peut être faite, à un moment donné, il y a des maintenances beaucoup plus larges. Et qui, et Renaud le montre très bien, ne sont plus uniquement liées au système historiquement complexe, comme les avions de combat, par exemple, ou les navires de combat qui doivent rentrer en cale sèche, etc., etc., mais aussi de plus en plus au niveau des véhicules blindés, qui historiquement étaient des systèmes plus simples, entre guillemets, mais en réalité, les nouvelles générations vers lesquelles on se dirige offrent évidemment une liberté d'action à leurs utilisateurs, des options d'utilisation qui sont beaucoup, beaucoup plus larges, d'une manière très instinctive, donc d'une manière très simple, finalement, avec une vraie prise en main rapide et facile. Mais ça se paye quelque part, c'est que si l'utilisation est relativement simple, l'entretien de toutes ces fonctionnalités derrière, en back-office, on va dire, lui, il est beaucoup plus complexe. Et qui dit complexité dit coût, évidemment, il y a beaucoup plus de trucs à surveiller, à remplacer, à reparamétrer, peu importe. Avec derrière ça de vraies questions qui ont traîné vraiment tout au long de la décennie, notamment au niveau organique, comment on s'organise finalement pour assurer un maintien, donc jusqu'à quel point est-ce qu'on fait intervenir les industriels et ainsi de suite. Dans un certain nombre de cas, quand on achète un matériel, on achète aussi le MCO qui va avec, c'est un peu la solution de facilité, mais l'industriel évidemment facture lui aussi un certain nombre de choses. Et donc in fine, ce que montre Renault, c'est qu'on n'a toujours malheureusement pas trouvé la recette optimale, la plus efficiente possible, quelque part, en matière de MCO. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faudra surveiller de près, parce que oui, ça a un coût.
Très bien. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses dans ce numéro de DSI. Il y a des perspectives sur la défense belge, qui est évidemment chère à votre cœur, Joseph. Il y a aussi une sorte de mini-dossier sur le Pantsir, donc le système de défense antiaérienne russe, qui s'est fait prendre en défaut depuis quelque temps, notamment en Libye et en Syrie, et ce qui pose des questions pour tous les pays qui l'ont acheté dans les années qui viennent. Mais donc je rappelle ce numéro de DSI 151 de janvier-février qui est dès à présent en kiosque. Merci beaucoup Joseph.
Merci à vous.
Bonjour à toutes et tous, et aujourd'hui pour parler de guerre informationnelle dans le monde contemporain, à l'occasion de la parution du livre collectif « Les guerres de l'information à l'ère numérique » aux presses universitaires de France, j'ai le plaisir de recevoir Maud Kessard, donc bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors les auditeurs anciens du Collimateur vous connaissent déjà, puisque vous êtes venus à plusieurs reprises dans le podcast, notamment au tout début, mais aussi plus récemment pour parler de votre thèse qui portait sur un sujet très proche mais un peu plus historique, autour des stratégies d'influence américaine depuis la guerre froide, épisode qui se retrouve évidemment très facilement sur le fil du podcast et qui peut d'ailleurs fournir une bonne contextualisation à ce dont on va parler aujourd'hui. Je rappelle par ailleurs que vous êtes directrice du domaine Espace Euratlantique à l'IRSEM et l'une des directrices de cet ouvrage avec Céline Maranger. Et vous êtes en compagnie de l'un des auteurs qui ont écrit dans cet ouvrage, Maxime Audinet, qui est aussi chercheur à l'IRSEM, spécialiste notamment de la politique d'influence russe à l'ère post-soviétique. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre.
Alors, pour commencer et poser le décor et faire en quelque sorte un peu le lien avec votre dernier passage dans le podcast, Maud, j'aimerais vous poser la question en quelque sorte du bilan sur le temps long de ces guerres de l'information. Ce que je veux dire, c'est qu'on en parlait la dernière fois, mais la notion de lutte informationnelle et disons de propagande au sens très large dans ces situations de conflit est tout sauf nouvelle. C'était le cas pendant la guerre froide entre bloc soviétique et bloc américain. C'était le cas aussi pendant les guerres mondiales et même bien avant, et on pourrait même dire que c'est déjà là depuis Homer et Sun Tzu, l'idée que la bataille n'est pas une pure bataille militaire, et qu'il faut préparer le terrain, démoraliser l'adversaire, gagner la bataille du discours, en somme, avant, pendant et après le choc des armes. Donc comment est-ce qu'on peut qualifier le contexte de guerre de l'information actuelle? Comment est-ce que et comment ça a évolué depuis la fin de la guerre froide, par exemple, et où est-ce qu'on en est à présent, ce qui pose aussi incidemment la question de pourquoi vous avez voulu lancer et coordonner ce projet avec Céline Maranger, je l'ai déjà dit.
Alors, je pense que le terme clé, Alexandre, c'est l'ère numérique, hein, parce qu'on avait parlé ensemble déjà de la guerre froide, qui est certainement un point de repère essentiel pour parler d'apogée de guerre de l'information. Mais en fait, tout l'intérêt de l'ouvrage, c'est de montrer que les guerres de l'information ne se sont jamais arrêtées et qu'il y a un certain nombre de ruptures stratégiques dans le temps. Et l'une d'entre elles arrive de manière très intéressante juste après la fin de la guerre froide, au début des années 90, lors de la première guerre du Golfe, où encore une fois, l'armée américaine, qui me tient particulièrement à cœur, associe en fait journalistes et spécialistes de l'information pour couvrir en fait la campagne américaine, donc de l'intervention dans de la première guerre du Golfe. Donc ça, c'est un point important et surtout, on va avoir un certain nombre de basculements à la fin des années 90.
Alors on peut rappeler simplement la première guerre du Golfe, c'est aussi le grand triomphe de CNN à l'époque.
Tout à fait.
C'est l'apparition d'images qui était, si ce n'est inédite, mais en tout cas rare, c'est-à-dire de diffusion de frappes, avec ces images très marquantes de frappes de nuit aériennes sur Bagdad, etc. On avait déjà vu des images de la guerre du Vietnam, mais on les avait jamais vues en temps réel, comme ça, comme on les a vues sur CNN à cette époque. Donc, en quelque sorte, première fois qu'une armée, investie, intègre à ce point-là des journalistes et des flux d'informations pour valoriser ou en tout cas pour diffuser le discours qu'elle veut développer sur une opération militaire.
C'est particulièrement intéressant que vous rappeliez le contexte de la guerre du Vietnam, parce que si les Américains associent donc des journalistes et des cellules d'information spécifiquement dédiées à la couverture de cet événement, c'est justement pour mieux maîtriser ce qu'ils avaient raté pendant la guerre du Vietnam. Ça reste quand même un épisode particulièrement catastrophique de couverture médiatique et qui est porté à l'encontre de l'image des États-Unis. Donc, au moment de la première guerre du Golfe, les Américains ne refont pas la même erreur. Ils essaient de maîtriser l'information et déjà, ils se lancent finalement dans une forme de numérisation de l'information dont on reparlera, surtout avec le tournant des années 2000, puisque c'est plutôt cette période 2000-2021, si on veut la retracer dans le temps, que couvre l'ouvrage. Donc, avec des points de rupture importants qu'on pourra rappeler, je pense, ensemble. Donc, le 11 septembre, bien sûr. Sur les révolutions de couleur, les révolutions arabes et l'Ukraine. Et je vous laisse la parole à mon collègue.
Maxime. Oui, ce qu'on peut dire justement, pour reprendre ce que vous disiez sur l'effet CNN, qui est toute cette littérature qui se développe justement au moment de la guerre du Golfe et sur la manière dont ces chaînes d'information en continu, avec l'exemple matriciel de CNN pendant ce conflit justement, montrent comment ces chaînes vont avoir une incidence sur la conduite des conflits et vont éventuellement redéfinir l'agenda des forces armées sur place. Et ce modèle-là a eu des conséquences très significatives sur justement après le 11 septembre et puis aussi au milieu des années 2000, l'émergence de tout un écosystème médiatique internationalisé. Alors il y a eu à la fin des années 90 aussi le cas d'Al Jazeera qui commence, et puis ensuite on a...
Donc Al Jazeera, la grande chaîne d'information qatari, qui a été lancée aussi pour faire pièce, disons, à l'influence saoudienne, puisque bon, on sait que les relations sont compliquées. C'est d'ailleurs tout à fait étudié dans le détail dans l'ouvrage. Mais Al Jazeera fait partie, disons, de ce grand mouvement, de cette idée qu'a montré CNN, qu'avoir une chaîne d'information, maîtriser un canal d'information continu, ça pouvait être un vrai atout stratégique.
Exactement. Et puis vous avez ensuite, alors dans le cadre de la Russie, par exemple, Russia Today, qui est créé en 2005. Et puis, on en reparle, mais par exemple, le cas de français avec France 24, c'était aussi une manière de répondre au discours de Villepin au Conseil de sécurité de l'ONU, ou qui n'avait pas été diffusé justement sur les grandes chaînes américaines et britanniques. Donc à chaque fois, c'est cette idée de lancer des chaînes très liées au conflit, aussi au conflit armé.
Donc le discours de 2003 de refus d'intervention de la France en Irak aux côtés des États-Unis. Maud Kessar ?
Oui, ce que rappelait Maxime illustre parfaitement en fait ce qu'on rappelle dans le livre, c'est-à-dire les phénomènes de circulation, de reproduction ou de copycat un peu d'un État à l'autre, d'un modèle à l'autre, d'un modèle médiatique aussi à l'autre qui peut servir les guerres de l'information. Ce qui veut dire en clair que les Américains se sont largement inspirés des Soviétiques dans l'épisode de guerre froide que vous rappeliez en préambule, puis les Russes s'inspirent largement donc au début des années 2000 des modèles américains développés dans le cadre de ce qu'on vient de rappeler.
Alors, on va évidemment parler de ces grandes dynamiques, des grandes puissances qui sont à l'œuvre dans ces guerres de l'information. Mais j'aimerais qu'on commence peut-être par ancrer et incarner un peu les choses, parce que bon, la notion d'information peut être parfois un peu impalpable et immatérielle. Et donc, j'aimerais parler d'utilisation militaire ou au moins stratégique de l'information. Et alors, donc j'aimerais que je vous ai demandé de choisir chacun une opération ou au moins une utilisation concrète et précise de la sphère informationnelle par une puissance pour un objectif précis, afin qu'on se représente un peu concrètement, voilà, quand ça se précipite, à quoi est-ce que ça ressemble, ces guerres de l'information, ou en tout cas ces utilisations belliqueuses, guerrières même, disons, de l'information pour appuyer, pour atteindre un objectif stratégique. Je sais pas qui veut commencer.
Oui, alors très largement, il faut peut-être distinguer deux types de contextes. Premier contexte, pour les opérations militaires, on est dans un conflit à chaud, donc dans un conflit ouvert, et donc on a besoin de pratiquer la guerre de l'information en temps réel pour déstabiliser l'ennemi. Les objectifs sont clairement définis, il y a une finalité, un end goal en anglais et les exemples sont nombreux, ils sont traités dans l'ouvrage et ceux qui sont plus proches de nous...
Choisissez votre préféré.
Là, on pourrait parler de la Syrie, par exemple, parce que là, on a un conflit qui est non résolu et où les guerres informationnelles sont très importantes. Je pense que mon collègue parlera largement du conflit ukrainien, si on veut parler de l'Ukraine.
Mais alors, en Syrie, par exemple, est-ce que vous avez un exemple, disons, de... Parce que, alors, c'est aussi tout un problème, c'est d'être capable de faire, en quelque sorte, l'autopsie d'une opération informationnelle, de savoir qui a fait quoi, comment, parce que bon, la désinformation fait partie de la guerre de l'information. Mais est-ce que vous avez un exemple, disons, de phase, de séquence, où clairement une puissance instrumentalise la diffusion, la circulation d'informations dans un objectif précis ?
Absolument. Donc sur les phases d'autopsie dont vous parlez, il faut le regarder sur le temps un tout petit peu plus long quand on a des rétex, notamment
des retours d'expérience
qui fonctionnent assez bien avec l'exemple de l'Afghanistan qui a quand même été largement traité avec toutes les expériences de guerre informationnelle menées par les Américains et de campagnes surtout qui sont ratées. Pourquoi ? Parce que les Américains, peut-être sur un terrain qu'ils maîtrisent moins bien le public ciblé par ces guerres de l'information. En l'occurrence, quand on a des populations pas lettrées et qui n'ont pas d'outils numériques, ceux dont on parle, ou d'outils de communication comme des téléphones ou des smartphones aujourd'hui, il est très difficile de vouloir mener des campagnes d'information efficaces si on ne maîtrise pas l'espace culturel du public.
Donc vous avez choisi une des opérations ratées, donc les opérations des Américains en Afghanistan, c'est-à-dire que c'est difficile de relancer des campagnes sur les réseaux sociaux en direction de paysans du fin fond de l'Afghanistan qui ne sont pas très connectés, c'est ça ?
Alors qui ne sont pas connectés et qui ont une culture orale et qui vont plutôt croire, suivre le taliban au sens premier du terme, qui est le lettré, qui est celui qui sait, et pas un réseau numérique auquel ils n'ont pas accès, bien évidemment.
Maxime, alors votre opération alors, préférée
Non mais je reprendrai cette idée d'autopsie, je crois que c'est très intéressant d'étudier les opérations d'influence justement comme des faits sociaux aussi, comme des politiques publiques qui concernent à la fois un émetteur, une cible, et c'est très bien de prendre ce cadre aussi qui peut être assez intéressant. Et j'ai pris le cas de l'Ukraine qui est sans doute le plus évident, mais je crois où ce qui est intéressant dans le cas ukrainien, c'est que on a tout le spectre en fait des différentes opérations informationnelles, des différentes composantes des guerres informationnelles.
On a donc l'invasion, opérations...
La crise ukrainienne à partir donc de 2013-2014, après le mouvement Euromaïdan, et qui s'est traduit par plusieurs événements, l'annexion de la Crimée, la guerre au Donbass notamment. Et dans ce cadre-là, on a vu apparaître soit l'utilisation d'instruments plus anciens, par exemple dans le cadre de la diplomatie publique, avec des médias, par exemple, russophones actifs, dans les zones de l'est de l'Ukraine.
Alors, qui disait quoi ? C'est-à-dire, concrètement, c'était quoi le message de désinformation, ou en tout cas d'information orientée, qui était émis et à destination de qui ?
Alors, en fait, la Russie, comme un certain nombre de pays qui sont abordés, ont une capacité d'adaptation du message en fonction des audiences qu'elles vont cibler. Dans le cadre des médias russophones, par exemple, qui existaient bien avant la crise ukrainienne, on va cibler des populations russophones pour, par exemple, diffuser une vision positive de la Russie, la question du lien entre ces populations vivent dans des territoires qui étaient soviétiques et qui désormais vivent ce que les Russes appellent les compatriotes de l'étranger, c'est-à-dire ces populations russes ou russophones qui ne vivent plus en Russie et qui sont enrôlés.
Ne vous inquiétez pas de voir ces soldats débarquer chez vous. Après tout, on fait partie d'une grande famille depuis l'époque de l'URSS.
Voilà, et ça peut aller beaucoup plus loin. Ça, c'est un récit, disons, qui relèverait du soft power. On peut aller dans des récits qui sont beaucoup plus manipulatoires ou qui relèvent de la désinformation, comme on a eu sur les grandes chaînes fédérales russes à certains moments clés avec... le paroxysme étant cette histoire de crucifixion. Alors ça a été sur des canaux bien précis qui souvent sont des canaux complotistes, etc. Vous avez toute une gamme
donc
aussi
de crucifixion, c'est quoi, c'est-à-dire les Ukrainiens,
un enfant
crucifiait des bébés, c'est ça?
Voilà, il y a une histoire comme ça, mais ça c'est vraiment le paroxysme, et il faut pas, je pense, se fixer sur cet exemple qui est peut-être un extrême. La plupart du temps, ça relevait aussi d'un récit plus ou moins propagandiste.
Non, mais cela dit, ce qui est intéressant avec une histoire aussi absurde que ça, c'est qu'on parlait de l'autopsie, c'est qu'elle est plus facile à traquer. C'est-à-dire, c'est une histoire aussi précise, aussi imagée, on peut probablement voir plus facilement la circulation. Alors, c'est une circulation qui est biaisée, parce qu'il faut, des gens qui soient disposés à croire ce genre de choses. Mais c'est au moins... Enfin, c'est pas simplement les Russes sont gentils et le nouveau gouvernement ukrainien est méchant. C'est un truc qu'on voit circuler dans certains cercles, quoi.
Voilà, exactement. Mais je pense qu'un cas plus emblématique, c'est sans doute plutôt celui, par exemple, du MH17, où la Russie a déployé toute une série d'instruments pour justement
donc,
montrer qu'elle n'était...
Rappelons que c'était un avion qui a été abattu par une défense antiaérienne au-dessus de l'Ukraine, dont tout le monde s'est rejeté pendant un certain temps la responsabilité de savoir qui avait tiré ce missile antiaérien. Et donc la Russie a déployé...
Voilà, et c'est là que, par exemple, les acteurs extérieurs de son influence médiatique, RT, Sputnik, ont joué un rôle très important pour relativiser, plus que pour nier, mais c'était vraiment pour relativiser la vision qui était avancée plutôt côté occidental. Et après, vous avez d'autres... spectre, donc là on a parlé plutôt des médias, mais vous avez la guerre électronique, vous avez la guerre psychologique, etc., etc., les cyberattaques sur l'Ukraine, par exemple NotPetya, qui ont été très marquantes et qui montrent qu'on a ce spectre, voilà, ce différent spectre des opérations.
Ok, ça ?
Oui, alors ça nous amène finalement au deuxième temps, au deuxième exemple de contexte où les guerres de l'information sont utilisées, quand c'est pas dans un conflit complètement ouvert, ça peut être aussi dans le cadre d'un conflit qui est plutôt froid, mais qui va déstabiliser un État démocratique. Alors, ce n'est pas forcément toujours l'exemple des élections, mais dans l'ouvrage, il est fait référence largement à l'affaire Skripal. Et je renvoie notamment au chapitre de notre renommé confrère Nicolas Skull, qui traite du cas britannique, où il développe beaucoup ce que Maxime vient d'évoquer, avec la vision britannique et la réaction, en fait, des services d'information britanniques.
Donc, rappelons que l'affaire Skripal, Sergueï Skripal, ancien agent des services russe, qui, comme c'est arrivé à un certain nombre d'agents des services russes, et j'ai pas envie de dire à passer le mur, mais s'est retrouvé en Angleterre, et, disons, à éloigner des services russes, et se serait fait assassiner, empoisonner, au Novichok.
Tentative, ouais.
C'est-à-dire un agent bactériologique russe. Et donc la question étant de savoir qui a fait ça, est-ce que c'est bien un assassinat, est-ce qu'il ne serait pas tombé malade tout seul, etc. Mais donc des discours contradictoires qui ont été propagés autour de ces faits qui étaient à peu près établis.
Voilà, et discours contradictoires, pas simplement des Britanniques contre les Russes ou des Occidentaux contre les Russes. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, on a de multiples cas d'information, de manipulation d'information, de désinformation. Donc cet exemple-là, il est très intéressant à étudier. Je vous invite à lire en détail dans le chapitre qui est consacré au cas britannique.
Maxime Nina.
Oui, je voudrais juste ajouter un petit élément qui me paraît essentiel. Vous avez parlé de la perspective stratégique de ces opérations informatiques. Je crois qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le caractère opportuniste de la plupart de ces opérations informationnelles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas nécessairement inscrites dans un temps long avec un objectif.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand master plan de l'information sur 10 ans. Enfin, il y en a peut-être un, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité et c'est le moment de mettre un discours.
Et si je peux donner un exemple, encore une fois, si vous le permettez, c'est... on parle beaucoup en ce moment de la question de l'influence de la Russie en Afrique, notamment... en Afrique francophone, autour de ce dénigrement de l'opération Barkhane ou plus généralement de la présence française sur les théâtres où elle est impliquée. Je crois que, par exemple, dans ce cas-là, on a énormément d'opérations qui relèvent d'actions opportunistes, même, je dirais même aventuristes. Le cas le plus emblématique, c'est celui de ce célèbre homme d'affaires, Yevgeny Prigojine, ancien cuisinier de Poutine, qui possède une entreprise qui s'occupe des cantines en Russie en particulier et qui mène à travers son groupe de mercenaires Wagner et à travers également des opérations de désinformation, notamment via ses Fermatrol, plusieurs opérations, en particulier en Afrique. Et ce qui est intéressant dans le cas de ces figures qu'on appelle en Russie des entrepreneurs géopolitiques ou des entrepreneurs d'influence, c'est que ce sont des gens qui, pour montrer des gages de loyauté au pouvoir et pour monter en fait dans la hiérarchie politique des élites russes, vont mener ici et là des opérations tantôt au Venezuela, en Afrique, en Syrie, pour justement montrer leur loyauté. Mais on n'est pas du tout dans un objectif stratégique pour le coup.
Mais alors justement, pour continuer pour parce que là on est à plein d'échelles différentes. Vous avez évoqué les deux échelles temporelles, Maud, mais on est à plein d'échelles aussi d'opérations différentes. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur un exemple, sur des exemples quasiment les plus proches du terrain et les plus proches des opérations militaires? Et ensuite, on remontera en généralité. Est-ce qu'on a des exemples de manipulation de l'information qui sont utilisés pour avoir un avantage tactique précis dans un conflit ouvert, dans des opérations ouvertes? Est-ce qu'on pourrait avoir, un exemple précis de ça, d'une ou l'autre des armées, si c'est des armées, qui utilisent vraiment l'information comme un levier tactique dans la bataille ou en tout cas dans la campagne?
Oui, alors je vous renverrai sans doute à l'encart rédigé par le lieutenant-colonel Gomez, qui est donc directeur du Centre national de ciblage et qui explique comment fonctionnent ces processus-là. Et je pense que c'est extrêmement intéressant à décortiquer. Ça ne veut pas dire que les exemples précis vont être développés, mais en tout cas, le processus est particulièrement bien expliqué et de manière didactique. Donc je vous renverrai plutôt à cette...
Est-ce qu'on peut avoir un exemple quand même, sans déflorer tout?
Je peux vous donner un exemple pour revenir à l'Ukraine, dans la sphère qui est une des sphères des guerres de l'information, qui est la guerre électronique, par exemple. Et on décrit avec Céline Maranger dans notre chapitre ce système embarqué qui s'appelle le Layer 3 et qui est par exemple un système de brouillage des communications ou de brouillage de l'orage des GPS de l'armée ukrainienne. Ça a été utilisé par exemple pour envoyer une campagne d'envoi de SMS, donc ça c'est plutôt de la guerre psychologique, aux familles des soldats ukrainiens qui étaient sur le front au Donbass en leur disant que ces soldats étaient morts, alors que c'était pas le cas, pour démoraliser en fait l'arrière, etc. Donc vous avez eu aussi un usage très concret de ces instruments électroniques pour déstabiliser l'adversaire et pour faire avancer aussi sur le plan tactique.
Alors maintenant, si on continue de monter un petit peu en généralité, disons, est-ce que sur un temps un petit peu plus long, on peut envisager, alors non seulement plus seulement des utilisations de l'information comme levier tactique, mais disons des campagnes, pas forcément sur des années, pas forcément de l'influence très large, mais disons l'idée qu'une opération cinétique, des opérations militaires, vont être préparées à l'avance par des campagnes de désinformation en fonction de cibles précises, c'est-à-dire l'idée qu'on se sert de l'information en quelque sorte comme la première ligne de bataille pour préparer le terrain, pour préparer le champ de bataille, et ensuite que les opérations, militaires plus proprement dites, exploitent cet avantage.
Dans les exemples qu'on a, c'est qu'on est quand même plutôt dans une réaction pour essayer de pallier à une mise en difficulté des armées plutôt qu'à une préparation sur le temps long. Ce qui est préparé sur le temps long, ça va être des campagnes d'information comme celles qu'on a évoquer et qui ne sont pas forcément proprement militaires, mais qui mélangent à la fois l'outil militaire et l'outil diplomatique. Là encore, l'exemple américain est particulièrement probant. Donc soit on est mis en difficulté sur le terrain au Moyen-Orient et on utilise un commandement militaire régional comme le CENTCOM qui est capable de mener des opérations de contre-information.
C'est-à-dire on n'est pas en difficulté.
On n'est pas en difficulté, c'est pas nous qui avons commis tel ou tel massacre. On essaie de répondre avec un temps de réponse qui souvent est beaucoup trop long. Donc là, les Américains sont littéralement, et avec ce mauvais jeu de mots, en perte de vitesse. Et dans les guerres de l'information, c'est ce qui compte. Et puis, il y a la campagne d'information sur le temps plus long pour préparer le terrain. Et là, on peut prendre l'exemple du continent africain aussi, où les Américains sont présents, mais en essayant d'avoir une empreinte un petit peu plus légère et des campagnes d'information qui sont faites autour de l'aide au développement et de la présence bienveillante des armées militaires américaines. Et c'est ça que les Américains mettent en avant sur le territoire africain, mais sur le continent africain, ça peut être vrai aussi au Moyen-Orient ou ailleurs. La technique est toujours un petit peu la même, mais ça ne passe pas forcément par les acteurs militaires seuls.
Oui, je crois que c'est important de rappeler dans la continuité de ce que vient de dire Maud, c'est que pour penser le long terme, il faut aussi avoir un fondement idéologique, un objectif aussi qui relève voilà d'un objectif, enfin un objectif politique, un certain nombre de récits qu'on va penser sur le long terme. Et évidemment, de ce point de vue, la guerre froide était plus favorable à ce genre d'initiative de très long terme, où on avait quand même pour objectif aussi de promouvoir de part et d'autre des deux blocs et du rideau de fer une certaine idéologie, un certain modèle bien précis. Dans le cadre des acteurs qui sont très offensifs sur le plan de l'influence informationnelle, bon, dans le cadre par exemple de la Russie, ces fondements idéologiques ont disparu. Alors ils sont utilisés de manière opportune, là encore, par exemple, on parle beaucoup de la Russie qui essaie de se présenter comme un phare du conservatisme ou du traditionnalisme, et on peut avoir ici et là, par exemple en Europe, des forces souverainistes, populistes, qui peuvent être attirées par ce discours. Mais de ce point de vue, la question du long terme relèverait plutôt, du coup, de ce qu'on appelle éventuellement la diplomatie culturelle, ou qui sort d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, de la guerre de l'information. Parfois, elles y sont incluses, parfois, on est sur des logiques, un centre culturel qui va promouvoir la culture longue d'un pays. On peut en sortir, mais pas toujours. Pardon.
Dans l'ouvrage, on parle bien de diplomatie publique et on essaie de comprendre comment ce terme-là est utilisé par les différents acteurs étatiques et ce que ce terme-là peut recouvrir pour un acteur qui est pour un État autoritaire ou pour un État démocratique. Parce que le terme de diplomatie publique est utilisé aussi bien par des États démocratiques que des États autoritaires, et c'est tout l'intérêt de comprendre la portée. Les acteurs militaires aussi utilisent le terme de diplomatie publique.
Mais alors justement, puisqu'on parle de ces acteurs différents, est-ce qu'on pourrait, alors maintenant pour encore prendre du recul, mais est-ce qu'on pourrait, disons, faire une sorte de géopolitique des puissances qui se donnent vraiment des moyens et des outils pour gagner ces guerres informationnelles? Je veux dire, on imagine bien, on a bien compris à partir des exemples qui ont été spontanément mobilisés jusque-là, que les États-Unis et la Russie sont deux grands mastodontes de ces guerres de l'information. Mais par exemple, une puissance comme la Chine, dont on sait qu'elle est émergente sur plein de plans, est-ce qu'elle se donne, est-ce qu'elle investit tant que ça, disons, dans des moyens de propagande, de diplomatie publique? Même la France, disons, une puissance de premier rang, mais qui ne sont pas ces deux grands mastodontes, est-ce qu'il y a les moyens afférents? C'est-à-dire, voilà, sans nécessairement vouloir faire un top 10 à proprement parler, mais simplement essayer de discerner des classes, des rangs, des espèces de catégories, et dire quels sont les acteurs d'importance à l'échelle mondiale, si on peut discerner en tiers, en grande classe, quoi.
Bien évidemment, tout l'intérêt de l'ouvrage, c'est justement de montrer qu'il y a à la fois ces phénomènes de circulation, donc des modèles de lutte informationnelle, mais surtout qu'il n'y a pas que de grands acteurs qui se livrent d'une guerre de l'information, et ces deux grands acteurs, ce n'est pas simplement donc les États-Unis et la Russie, c'est l'ensemble des autres acteurs de la scène internationale, et tous ceux qui ont finalement des enjeux stratégiques à défendre, et au premier rang desquels, donc, on va trouver l'acteur chinois, mais aussi iranien, nord-coréen. Et puis, par réflexe défensif, on va aussi avoir un certain nombre d'acteurs plus démocratiques, le Japon, ce groupe d'acteurs que représente l'Union européenne et qui agissent de manière réactive, les pays baltes. Donc, tous ces acteurs-là font partie, enfin, disons qu'ils sont en première ligne dans les guerres de l'information contemporaine. Et puis,
Mais alors, est-ce que ceux-là, c'est les pays qui investissent le plus? Est-ce que c'est les premiers à s'être penchés sur ces choses-là? C'est-à-dire, comment est-ce que... pas quels sont les facteurs de la puissance informationnelle, mais si un peu... C'est-à-dire, où se fonde cette capacité d'action? Est-ce que c'est ceux qui se posent la question depuis longtemps? Est-ce que c'est ceux qui mettent le paquet, aussi bien en termes d'effectifs que de capacités techniques, je ne sais pas. Voilà, sur quoi est fondée cette puissance et cette capacité d'action sur la sphère informationnelle?
Je crois ce qu'on peut aussi ajouter, c'est qu'en fait, la plupart des pays qui veulent avoir un rôle sur la scène internationale considèrent qu'il faut développer des moyens. Le terme le plus communément utilisé, surtout au milieu des années 2000, c'était cette notion de soft power, bien sûr. Et c'est peut-être là qu'il faut aussi observer, c'est-à-dire qu'il y a un moment après le 11 septembre aussi, où la plupart des États estiment que l'enjeu réputationnel et la promotion d'une image positive à l'extérieur auprès d'audiences étrangère est un enjeu stratégique, est un enjeu essentiel parallèlement à tout ce développement de cet écosystème médiatique, numérique aussi évidemment, c'est-à-dire que l'enjeu de l'image est de plus en plus important. Si bien que, et c'était effectivement le but de cet ouvrage, il y a toute une série de pays qui le développent. Ce qui est intéressant à mon sens, c'est d'essayer de comprendre les interprétations que chacun de ces pays, en particulier les États autoritaires d'un côté et les démocraties libérales de l'autre, même s'il y a aussi toute une palette entre les deux, vont interpréter ces concepts de soft power, de diplomatie publique, de guerre de l'information, éventuellement aussi de désinformation. Et de ce point de vue-là, c'est un petit peu l'objectif de ce trouvage. Chaque État va développer un petit peu ses spécificités. Par exemple, pour reprendre le cas de l'Iran, l'écosystème médiatique qui est développé par l'Iran, qui s'inspire d'une certaine manière beaucoup des Russes aussi, est un écosystème qui va se présenter comme comme une série de médias alternatifs dans l'espace médiatique international, avec par exemple Presse TV qui s'adresse aux audiences occidentales, ou Al-Alam, je crois, qui s'adresse aux audiences chiites irakiennes, par exemple, etc. etc. Sur la Chine, qui est effectivement l'un des cas montants, l'un des acteurs montants des guerres de l'information, en particulier depuis 2017 et puis a fortiori depuis la pandémie actuelle, la Chine qui, avant ça, avait un discours beaucoup plus fondé sur le soft power, d'une vision positive de la Chine qui a été incarnée au moment des Jeux Olympiques, par exemple, de 2008. On a des opérations informationnelles et une diplomatie numérique, notamment, beaucoup plus offensive. C'est ce qu'on a appelé, par exemple, la diplomatie du loup combattant, avec ses ambassadeurs sur Twitter qui développent un discours de plus en plus agressif. Et puis, pardon, il y a le schéma commun, c'est ce qu'on appelle aussi la guerre de front uni, qui est développée notamment par Valérie Niquet et Paul Charron dans l'ouvrage, et qui consiste en fait à s'appuyer sur des groupes, des classes sociales qui n'appartiennent pas au Parti communiste chinois, mais qui vont être utilisées, instrumentalisées pour soutenir les positions chinoises, et c'est particulièrement le cas pour Taïwan, pour Hong Kong, par exemple, où cette stratégie est mise en œuvre.
Ouais, je vais ajouter, c'était pas gentil de ma part de vous poser la question comme ça, mais c'est vraiment le grand avantage de cet ouvrage que de s'organiser vraiment par chapitre, justement, et de creuser à fond chaque exemple, chaque puissance. Je vous ai demandé d'en faire un gros résumé et de me faire un top 10, mais évidemment, dans l'ouvrage, on peut trouver à la fois des analyses de chacune de ces grandes puissances et aussi des pistes de prolongement. Maud Kessa ?
Oui, il faut rappeler que l'enjeu aujourd'hui, plus que d'avoir un narratif national qui se vende bien à l'extérieur, c'est aussi et surtout de maîtriser les flux d'informations, non pas de faire du contrôle, mais de la maîtrise. Parce que si on parle de contrôle, on va parler d'État autoritaire, alors que pour l'ensemble de ces puissances, petites, moyennes ou grandes, donc l'enjeu, c'est de maîtriser ces flux d'informations parce que cela devient un facteur de la puissance. Et ce qu'on essaie de montrer aussi dans l'ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est celui de la maîtrise des données, donc du big data. Et là, on rentre pleinement, finalement, dans ces enjeux des grandes compétitions de puissance entre la Chine, les États-Unis, la Russie, bien sûr, mais aussi et surtout ces petites et moyennes puissances qu'on a évoquées qui peuvent être très habiles et très efficaces dans ces guerres de l'information avec des outils à moindre coût, puisque là on rentre dans le cadre de conflits asymétriques et les Iraniens sont quand même particulièrement efficaces sur ce plan. Beaucoup d'exemples aussi en Asie seraient pertinents à évoquer pour illustrer tout ça.
Oui, il y a une référence, je crois, au début de l'ouvrage, une sorte d'analogie avec l'image qu'on a souvent utilisée du pouvoir égalisateur de l'atome, c'est-à-dire de dire que la bombe atomique, en fait, égalisait des puissances même de niveaux très, très différents. C'est pour ça que c'est pas totalement inintéressant d'ailleurs de garder l'exemple de l'Iran, enfin, parce que les deux choses se réunissent, se rejoignent un peu, et de parler de pouvoir égalisateur de l'information, au sens où bon, ça permet, disons, une sorte de rééquilibrage des forces, même dans des conflits très dissymétriques.
Je crois que là encore, la crise ukrainienne est un bon exemple. puisqu'on parle beaucoup des instruments russes qui ont été mis en œuvre pour justement déstabiliser l'Ukraine et puis propager un récit spécifique des événements auprès des audiences, notamment occidentales. Mais l'Ukraine elle-même, qui est dans une position du faible au fort qui est évidente, a elle-même développé toute une série d'instruments médiatiques, en particulier juste après le mouvement Euromaïdan, et qui était très, très directement dirigé contre la Russie, avec une idée à la fois de riposte, mais aussi de propagation de quelque chose de positif, qui était un discours sur la nouvelle Ukraine, une Ukraine démocratique, plus proche plus proche de l'Europe, etc. etc. Et donc, il y a eu toute une série, pour vous en donner quelques exemples, il y a eu un média en ligne qui s'appelait Hromadske, il y a eu une chaîne de télévision qui a disparu depuis, qui s'appelait Ukraine Today, avec une référence, même si elle est niée, à Russia Today, mais l'idée, c'était vraiment de proposer un contre-récit avec, alors, beaucoup moins financé, sans doute avec des effets moins importants, mais malgré tout, une occupation de cet espace informationnel local très nette, y compris de la part d'acteurs plus faibles.
Alors, on a maintenant ce paysage un peu global et un certain nombre des leviers, mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu maintenant sur les grands acteurs, et les acteurs vraiment importants et, disons, dominants de ces guerres de l'information, peut-être les plus visibles aussi dans une certaine mesure. Mais notamment, je voudrais parler de la Russie. Alors, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Emmanuel Dreyfus, autre chercheur spécialiste de la Russie à l'IRSEM, dans un épisode des Têtes chercheuses où on avait essayé d'aller un peu au-delà de l'idée d'une doctrine Gerasimov, donc cette espèce de mythe qui aurait eu un moment où aurait été théorisée en Russie une doctrine de la guerre hybride, où il faut faire la guerre dans la sphère informationnelle en plus de la sphère physique. Et Emmanuel Dreyfus nous avait dit que déjà c'est pas si doctrinal que ça, et puis en plus c'est plus une analyse russe de ce que font les États-Unis qu'autre chose. Mais quand même, la Russie est très visible par sa capacité à se doter d'outils pour peser sur l'information, parce qu'elle ne s'en cache pas, c'est l'agence de presse Sputnik, c'est les diverses chaînes RT, alors il y en a dans plein de pays différents, donc Russia Today. Donc, peut-être Maxime, d'où est-ce que ça vient et pourquoi tant d'investissement et aussi et surtout pourquoi tant d'absence de complexe face à ça? Pourquoi à ce moment-là ne pas essayer de le cacher? Enfin, je veux dire, quand on fait une chaîne qui s'appelle Russia Today, c'est clairement, on ne cherche pas à être particulièrement subtil sur le fait que c'est un discours plus ou moins orienté du point de vue de la Russie.
Alors, le cas de Russia Today, qui s'appelle maintenant donc RT, de même que d'ailleurs le cas de toute cette facette médiatique en fait de l'influence informationnelle de la Russie, est intéressant parce qu'en fait il dépasse même le cas russe, puisque ça a été un point, ça devient d'une certaine manière un modèle pour d'autres États qui se demandent justement comment ils peuvent le mieux possible utiliser cet arsenal pour défendre leurs intérêts. Et ce qui est intéressant dans le cas de RT en particulier, qui est créé en 2005, donc c'est à peu près en fait au moment des révolutions de couleur dont on a parlé, en particulier la révolution orange en Ukraine, qui est perçue par la Russie comme une ingérence très directe justement du soft power occidental dans son précaré, ce qu'elle estime être encore son précaré, l'espace post-soviétique. Elle crée donc ce média qui, dans un premier temps, comme le font d'ailleurs la plupart des médias chinois encore aujourd'hui, a une ligne qui est très centrée sur la Russie, avec la propagation d'un message positif, Et en fait, elle va, cette chaîne va vraiment changer de ligne éditoriale en 2008, au moment du conflit en Géorgie, où les leaders russes, mais aussi la rédaction de cette chaîne, comprend qu'en fait, non seulement ils ont très peu d'audience, mais en plus, ce message positif a finalement un intérêt assez limité et un impact très réduit. Donc ils vont changer complètement en adoptant ce créneau alternatif, donc qui est vraiment leur message et qui depuis est repris par un certain nombre d'autres médias qui se revendiquent comme des médias globaux alternatifs dans l'espace médiatique international. Et c'est vraiment une ligne qu'a adoptée RT à ce moment-là et qu'elle a déclinée ensuite en fonction des différents événements qui ont concerné la Russie.
C'est-à-dire, c'est pas les informations qui viennent de Moscou, c'est les informations qu'on ne veut pas que vous sachiez, que les grands médias vous cachent, c'est ça ?
Exactement, voilà, avec ce terrain-là et qui est à chaque fois adapté en fonction des paysages médiatiques locaux dans lesquels RT va s'implanter, RT France en France, en Allemagne, etc., au Royaume-Uni.
Je pense que ce qui est intéressant aussi à rappeler comme basculement dans le livre, c'est le passage de l'utilisation des médias traditionnels et cette reproduction qu'on a rappelée en préambule, qu'on note entre une fois les Américains qui copient les Soviétiques, puis les Russes qui copient l'expansion des chaînes d'information américaines. Et le basculement qui est intéressant à montrer, c'est l'utilisation des réseaux numériques comme possibilité d'amplification de l'information. Et je pense que Maxime a beaucoup de choses à dire sur l'exploitation en fait des réseaux numériques par aussi les médias d'État russes.
Oui, alors
Maxime ?
Oui, tout à fait. Alors ce sont des médias, donc RT d'abord, et puis a fortiori Sputnik qui est créé.
C'est ça, parce que
2014.
C'est intéressant parce qu'il y a la chaîne. Et il y a l'agence de presse qui est Sputnik, ce qui montre bien qu'on pense plus largement qu'au-delà du canal, on pense en termes d'écosystème informationnel, c'est-à-dire de capacité à agréger des informations et à les formuler d'une manière précise, et que en fait, ça arrive jusqu'à des endroits qui ne sont pas RT.
Voilà, alors c'est un binôme en fait, mais ça existe ailleurs. Par exemple, dans le cas français, on a France 24 et RFI. On a différents canaux qui vont occuper soit différents médias, donc la radio, la télé, et puis évidemment les réseaux sociaux, où les médias russes sont extrêmement présents. Et ça, il y a tout un écosystème de comptes sur les différents réseaux sociaux qui sont très actifs pour propager les contenus de ces médias-là. Il y a aussi, et c'est un autre aspect, toute une série d'acteurs plus clandestins ou plus subversifs qui vont être chargés à la fois d'amplifier ces contenus qui sont propagés par les grandes agences étatiques russes, mais aussi eux-mêmes, c'est le cas de l'IRA, de cette Fermatrol dont on a parlé de Saint-Pétersbourg, qui vont aussi être des acteurs de la désinformation en allant faire par exemple du trolling sur les réseaux sociaux pour pourrir une conversation, pour polariser une communauté sur les réseaux sociaux. Donc voilà comment ces différents médias occupent en fait des niches assez différentes.
Mais en même temps, et sans vouloir particulièrement pousser l'esprit de contradiction ni me faire l'avocat du diable, c'est pas exactement nouveau, les agences de presse liées à un État. L'AFP en France, par exemple, a un statut particulier, enfin, elle est clairement liée à l'État français. Donc même si on pense et qu'on peut dire que le travail de l'AFP se caractérise concrètement par nettement plus d'indépendance que celui de Sputnik, c'est pas essentiellement différent. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, l'effet brut, ça n'existe pas. Ils sont toujours lus et rapportés avec un prisme culturel, politique, philosophique, etc. Donc voilà, comment ne pas tomber dans le biais d'une certaine localisation, de dire « Ah ben, c'est parce que les Russes font ça, c'est vraiment de la manipulation de l'information ». Comment réussir à voir que, en fait, c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes assez librement, et c'est pas parce que c'est ancien et qu'on a l'habitude de le voir que c'est pas essentiellement différent. Maud Kessa ?
Je pense que le rapport aux outils numériques est essentiel pour faire des distinctions, et c'est ce qu'on essaie de montrer justement dans l'ouvrage. Donc ces nouveaux écosystèmes de propagande, ils se différencient de ceux qu'on a pu voir par le passé, quand on parlait de la guerre froide ou des agences de presse qui sont anciennes, parce qu'aujourd'hui les outils numériques sont ouverts à tous avec des possibilités d'interaction qui vont au-delà des acteurs étatiques, avec la possibilité de relais via des acteurs individuel. Et surtout, ces outils-là favorisent donc la balkanisation des opinions publiques que l'on observe au quotidien dans l'actualité aujourd'hui, et ils ouvrent des brèches dans les sociétés démocratiques en crise. La crise politique américaine en est certainement un excellent exemple ces jours-ci, ou ces mois passés, ou ces années passées, et les outils numériques donc permettent de créer en fait de nouveaux types de guerres de l'information qui se distinguent nettement de ce qu'on a pu observer par le passé.
Maxime Audinet ?
Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Maud. Et pour prolonger, la différence peut-être aussi, c'est que la plupart des États autoritaires, à travers ces organismes de diplomatie publique médiatique, font à la fois, comme la plupart des démocraties libérales, de la diplomatie publique, ce qui peut impliquer d'ailleurs de défendre assez ouvertement la politique de son propre pays, en particulier sur des terrains militaires, ce que font la plupart des médias des démocraties libérales. La différence, c'est que à cette dimension strictement narrative, on va ajouter, dans le cas de médias comme RT et Sputnik aussi, tout ce créneau justement alternatif dont on parlait, qui implique avec une omniprésence de contenu relativiste, sarcastique, ironique, qui justement vont être utilisés pour accentuer des vulnérabilités dans les sociétés ciblées, pour polariser l'opinion. Et ça, c'est sans doute une différence assez importante. Je prends par exemple le cas d'une radio comme RFI en russe, par exemple, qui émet en Russie. Elle peut prendre position pour des raisons idéologiques plutôt pour, par exemple, Navalny ou pour l'opposition russe, mais elle ne va pas être dans une démarche systématique de relativiser, de désinformer éventuellement, de polariser la société russe sur ces questions. Ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir un agenda idéologique ou un récit précis.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de relativiser le rôle des agents de l'étranger, d'accord, et particulièrement de la Russie, sur un certain nombre de territoires ou dans des États démocratiques, les États-Unis, l'Union européenne, car aujourd'hui, on assiste plutôt à une subversion qui est de la part des ennemis de l'intérieur, et ceux-là utilisent les outils numériques dans les guerres de l'information.
Il n'y a pas besoin des Russes pour diviser les Américains, ils sont déjà suffisamment divisés.
Ils sont déjà suffisamment divisés, et les mouvements complotistes, nationalistes qui ont eux-mêmes leur propre écosystème de propagande. L'exemple le plus marquant, qui n'est pas développé à proprement parler dans le livre, mais qui en est un prolongement, c'est QAnon, et qui peut être alimenté ou servir de brèche à la fois à un agent de l'étranger, mais aussi ou surtout aux ennemis de l'intérieur qui utilisent donc les outils numériques comme des possibles outils de subversion.
Mais alors QAnon, alors, il faudrait rappeler, mais en même temps c'est impossible à expliquer ce que c'est, il vaut mieux pas essayer, mais bon, c'est espèce de théorie du complot en ligne américaine sur des bandes de pédophiles qui dirigeraient l'État américain. Enfin bon, ça, on n'a pas forcément envie d'entrer trop dans le détail, mais cela dit, ça réémerge parfois, comme lors de l'assaut du Capitole récemment, où clairement QAnon avait joué un rôle très instrumental, et cet écosystème en ligne avait joué un rôle très instrumental. Mais justement, ça m'amène à parler peut-être donc on a parlé largement de la Russie, mais parler de l'autre grand acteur, de l'autre grand mastodonte, en tout cas historique, que sont les États-Unis, dont on a bien compris qu'ils avaient joui. Ils ont une position assez hégémonique pendant assez longtemps, notamment après la fin de la guerre froide, sur la sphère informationnelle, en tout cas à l'échelle globale. Et voilà, comment est-ce qu'ils avaient une longueur d'avance, très clairement, avec leurs organismes d'influence dédiés, depuis la Seconde Guerre mondiale, Voice of America par exemple, la radio, mais ensuite CNN à partir des années 90. Et d'une manière générale, on sait qu'encore aujourd'hui, la plupart des géants d'Internet sont américains. Donc il y a clairement une position de force, mais ça n'épargne pas les surprises, puisqu'il y a d'autres géants qui émergent, et aussi parce qu'ils peuvent se faire surprendre, par exemple, par des opérations d'ingérence dans des élections, comme ça a été relativement établi pour les élections de 2016. Donc comment est-ce que les États-Unis, institutionnellement et même philosophiquement, disons, se saisissent de ce risque-là, et dans quelle mesure est-ce qu'ils réussissent à solidifier leur position, à pérenniser, disons, cette position prééminente face à l'émergence d'autres puissances ? Maud ?
Alors, une position prééminente qui est quand même toute relative. D'ailleurs, les élus américains en sont fortement conscients. Bien sûr, ils en ont été fortement conscients, et on le rappelle largement dans le livre, avec les élections présidentielles de 2016 et les accusations qui ont été portées à l'encontre de la Russie, qui auraient donc commis une ingérence dans les affaires intérieures américaines. Mais en fait, ce que tout cela révèle surtout entre 2016 et 2020, 2020 2021, à l'heure où nous parlons, c'est la grande vulnérabilité des systèmes numériques américains qui ne font qu'amplifier ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire les crises politiques intérieures. Alors, comment réagir à cela ? Eh bien, la difficulté et l'autre faiblesse ou vulnérabilité peut-être du grand acteur américain que vous venez de rappeler, c'est sans doute la difficulté à innover pour être capable de créer des stratégies de réponse adéquates aux nouvelles guerres de l'information et aux guerres de l'information numérique. Alors, premier point, d'abord, les grands géants du numérique se sont révélés par effet boomerang, finalement, être plus une faiblesse ou un talon d'Achille qu'un outil de force. Donc, tout dépend comment ils sont employés par l'outil politique. Soit les plateformes collaborent avec, ou coopèrent plutôt, avec le département d'État, et c'est ce qui est prévu dans l'architecture institutionnelle de réponse des États-Unis. Soit elles servent finalement d'outils ou de relais à de possibles contenus subversifs, comme on vient de le rappeler à l'instant. Donc l'idée, c'est quand même pour les responsables politiques américains, pas seulement une administration Trump ou bientôt une administration Biden, mais plutôt aussi pour le Congrès, qui examine en fait ces difficultés depuis un moment avec un certain nombre de rapports, pour le département de la justice américain et aussi pour le Pentagone, car ces affaires de guerre informationnelle, elles touchent aussi bien la sécurité nationale, des questions de défense, mais aussi la sécurité intérieure. Et toute la difficulté pour l'énorme acteur américain, le géant américain, c'est de coordonner tous ces acteurs qui vont pouvoir offrir une réponse adéquate pour à la fois sécuriser l'intérieur et assurer leur défense.
C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a trop d'agences, trop d'acteurs, trop de sous-commandements militaires, disons, qui sont intéressés à ça d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il n'y a pas de coordination, comme ça peut être plus facile dans d'autres appareils, disons, militaires plus restreints, où on peut mener des actions, on peut coordonner plus facilement que dans l'immense mastodonte qu'est l'armée américaine.
Alors, c'est pas que l'armée américaine, c'est aussi, bien sûr, le département d'État, les agences de renseignement, le Pentagone, mais aussi, finalement, une coordination avec les acteurs du privé, les GAFAM que je viens de rappeler, les médias d'État, qui sont représentés par le Broadcasting Board of Governors, et qui est sans doute un exemple, finalement, d'architecture ou d'organisation, de coordination des médias d'État. Donc, le problème, oui, c'est la coordination des acteurs, et c'est leur propension à agir en silo, mais cette caractéristique américaine que l'on voit avec effet de loupe parce qu'on a un appareil bureaucratique énorme, finalement c'est le même travers que l'on peut observer dans d'autres États démocratiques, c'est ce qu'on montre aussi dans le livre. Pour pallier cela, il faut être capable d'avoir un coordinateur central, et c'est ce qu'on montre aussi dans l'ouvrage, et les Américains en sont assez conscients aujourd'hui.
Alors justement, c'est pour terminer en quelque sorte, c'est la question de... Alors on a vu l'arsenal offensif, mais de l'arsenal défensif, des contre-mesures qui sont possibles. Alors évidemment, ça dépend beaucoup du pays, et notamment de la situation politique du pays. Mais d'abord, peut-être pour prendre l'autre extrême du spectre, est-ce qu'il y a des pays qui ont la main sur leurs canaux d'information ? Parce que ça nous permet aussi de parler des infrastructures dont on n'a pas assez parlé pour l'instant. Mais voilà, sur leur Internet par exemple, est-ce qu'il y a des pays qui peuvent contrôler, voire couper les flux d'informations entrants, qui donc peuvent s'assurer, se prémunir en cas de crise, que l'information étrangère n'entre pas? Alors on se doute bien que ce n'est pas forcément les pays les plus ouverts et les plus démocratiques, mais est-ce que, même dans les pays dits autoritaires, Internet, on sait que c'est un réseau distribué, que c'est un réseau qui entre par plein de points d'entrée, est-ce qu'il y a des pays qui peuvent vraiment couper le robinet de l'information? Maxime Audinet?
Alors, il y a trois cas qui sont intéressants, et je vous renvoie aussi au chapitre écrit par Kevin Limonier dans l'ouvrage. C'est la Chine, l'Iran et la Russie, de ce point de vue. Ce qui est intéressant, pour parler un peu plus rapidement, parce que je ne suis pas spécialiste de ces deux pays, de la Chine et de l'Iran, c'est qu'elles ont développé dès le début du développement de leur réseau numérique, elles ont développé des systèmes relativement, même parfois très clairement fermés, avec peu de points de sortie de ce qu'on appelle de systèmes autonomes, qui permettent en fait tout simplement d'avoir un écosystème numérique national, avec très peu de portes de sortie et d'entrée pour les flux de données qui vont aller et venir dans ces pays.
Si on prend la métaphore hydraulique, qui est par ailleurs une métaphore importante dans l'histoire d'Internet, c'est en gros, en quelque sorte, il y a un gros tube, il y a un gros tuyau à l'entrée, et depuis le début, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de tuyaux qui passent les frontières, quoi, et qu'il y ait des gros tuyaux mais qu'ensuite ça entre dans le pays et que ce soit distribué une fois la frontière passée.
Voilà, c'est à la fois des tuyaux et puis également ce qu'on appelle des protocoles aussi de routage qui vont être ces systèmes autonomes qui vont permettre ou non de fermer ou d'ouvrir pour que les flux de données numériques puissent rentrer et sortir. Donc c'est ce qu'on appelle plus généralement, et c'est le sujet de l'article, les couches basses du cyberespace qui sont à la fois ces couches physiques, les câbles, et puis ces couches protocolaires qui sont donc...
qui sont la manière dont l'information circule dans la câble.
Avec la métaphore qui est utilisée, c'est l'aiguillage des trains, par exemple. Voilà, c'est un petit peu cette idée. Ce qui est intéressant dans le cadre de la Russie, c'est que contrairement à la Chine et à l'Iran, la Russie, au moment où elle développe son écosystème numérique, donc d'abord à l'époque soviétique et puis surtout de manière beaucoup plus large dans les années 90 et 2000, c'est qu'on a un développement qui est complètement libre et chaotique, en fait, surtout dans les années 90. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toute une série de... Il y a une loi qui a été adoptée récemment sur la question de l'Internet souverain, donc qui est vraiment, je crois, une dimension essentielle, la question de la souveraineté numérique. Je précise au passage que dans les doctrines russes, les doctrines parlent très peu de l'aspect offensif de l'influence informationnelle, mais beaucoup plus d'une vision défensive de ce qu'on appelle l'espace informationnel en Russie. Et les doctrines concernent la sécurité informationnelle, protéger à la fois les infrastructures critiques de l'espace informationnel russe, qui donc à la fois la partie physique, mais aussi les couches hautes du cyberespace, la couche sémantique, c'est-à-dire protéger des contenus qui viendraient de l'extérieur pour influencer la population russe. Donc voilà, les pays autoritaires se défendent aussi énormément, on ne l'a peut-être pas assez dit, contre les ingérences extérieures. Et cet Internet souverain en Russie, il est beaucoup plus complexe à mettre en place, justement parce que, contrairement à l'Iran, par exemple, qui je crois que seulement 4 systèmes autonomes qui permettent aux données de sortir ou de rentrer dans le pays, la Russie en a des centaines, voire des milliers. C'est-à-dire,
puisque dès le départ, on a construit plein de tuyaux qui entraient, c'est plus difficile aujourd'hui de maîtriser
donc
les flux entrants.
Les dorsales numériques sont beaucoup plus reliées à l'extérieur, et donc pour contrôler ces espaces-là, ces portes d'entrée, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place.
Les Iraniens peuvent fonctionner totalement en autarcie, c'est ce qu'on peut voir dans le livre. Il y a l'exemple quand même aussi de la Corée du Nord, que je vous invite à lire, et qui est particulièrement clair et facile à comprendre, parce qu'effectivement, en contexte totalement autoritaire, eh bien, on est beaucoup plus facilement préservé des flux informationnels que lorsque l'on est dans une démocratie pluraliste. Et quand je parlais d'effet boomerang, en fait, ce qu'on montre dans l'ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, les démocraties pluralistes sont victimes, en fait, de ce qui fait leurs caractéristiques.
Mais alors justement, juste pour rester, parce qu'on va passer ensuite aux démocraties, mais quel niveau ça atteint dans des pays comme Russie, Chine, Iran, etc. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui marche, ou est-ce que c'est quelque chose qui se contourne relativement ou facilement par quelqu'un qui maîtrise des protocoles qui sont pas exactement répandus auprès de tout un chacun, mais qui sont quand même relativement accessibles, comme les VPN, c'est-à-dire des protocoles de reroutage des flux de données, ou Tor, ce qui est encore un autre protocole nettement plus sécurisé, ce qu'on a parfois appelé à tort le dark web. Donc, est-ce que ça marche vraiment? Dans quelle mesure est-ce que ça marche vraiment? Si d'ailleurs, tant est qu'on puisse le savoir. Maxime Dumont.
Alors, en Iran, je crois que justement, ces différentes portes d'entrée en 2019, si je me souviens bien, ont été fermées, donc avec un accès, comment dire, une imperméabilisation, si on peut dire, totale du réseau iranien au reste du monde. C'est le cas aussi avec le firewall chinois, qui en plus, en fait, ce qu'on n'a peut-être pas
le
assez
firewall
dit...
chinois, il y a l'image de la grande muraille de Chine numérique qui a souvent été répandue, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire c'est une muraille physique qui est perméable, mais qui existe quand même.
Voilà, et puis ce qu'on n'a peut-être pas assez dit aussi, c'est que cette souverainisation de l'espace informationnel, elle n'est pas uniquement liée à la question de l'entrée ou de la sortie des flux de données, mais c'est aussi le développement de tout un écosystème numérique local. Et les cas russes et chinois, de ce point de vue, sont très emblématiques, avec dans chaque pays le développement de systèmes de recherche propres, de réseaux sociaux évidemment propres.
Donc il suffit pas d'interdire Facebook ou Google, il faut encore proposer une alternative, disons un système local qui réponde à peu près aux mêmes choses.
En Chine, Facebook est interdit et vous avez toute une... je ne suis pas spécialiste encore une fois, mais il y a Weibo, WeChat, etc. En Russie, vous avez un réseau social très populaire qui est Vkontakte. Mais en Russie, en revanche, les grands réseaux sociaux ou les grands systèmes de recherche occidentaux ne sont pas interdits. Donc vous avez une coexistence entre ces deux avec une compétition évidemment très forte pour les audiences. Pour les utilisateurs de ces réseaux.
Alors maintenant, si on passe à l'autre type d'acteur, donc on a bien compris que pour un régime autoritaire, de manière assez intuitive d'ailleurs, c'est relativement plus facile de maîtriser tout ça, surtout s'il y a l'architecture derrière qui permet d'avoir la main sur tout ça. Mais maintenant, dans le cas des démocraties, comment est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, on sait que certains pays ont décidé de condamner pénalement certaines tentatives d'influence. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la France, c'est le cas d'Israël. Alors après, avec éventuellement un flou derrière ce que ça recouvre. Mais donc voilà, comment est-ce que les démocraties libérales, avec tout le vague que veut dire cette expression, quel est l'arsenal qui peut être à disposition pour maîtriser ces tentatives d'influence? Maud Kessar ?
Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la vulnérabilité des démocraties, effectivement, le positionnement ou la posture des régimes démocratiques ou des États-Unis, c'est de vouloir dire, si on va être plus offensif, il faudrait qu'on puisse faire tomber les murs de l'Internet. Ça a été quand même la rhétorique américaine pendant un certain temps.
C'est-à-dire que ces grandes murailles de Chine, tous ces systèmes coupés du reste, qu'on soit capable de raser les frontières numériques et que l'information circule relativement librement à l'échelle mondiale.
Alors, de les raser directement, peut-être pas, mais d'être capable d'accompagner des grands acteurs du numérique pour pouvoir s'implanter plus facilement en Amérique latine, en Chine ou dans d'autres pays d'Asie, c'était quand même l'objectif d'une administration Obama précédente qui devrait fortement influencer l'administration Biden qui est investie aujourd'hui.
Alors, la réponse... qu'on enregistre ça donc le 20 janvier, le jour de l'investiture de Biden. Si la journée se termine mal, on ne le sait pas encore. Espérons que non.
Alors, pour ce qui est des réponses, je pense que c'est important de rappeler qu'un État, un des États qui a le plus rapidement essayé d'architecturer sa réponse en matière de lutte contre la désinformation, c'est sans doute le Royaume-Uni. Et c'est largement rappelé dans l'ouvrage, le Royaume-Uni, on parlait de phénomène de circulation, on a beaucoup parlé des États-Unis, mais les États-Unis s'inspirent beaucoup et travaillent étroitement avec les Britanniques, qui sont les premiers finalement, alors depuis le XXe siècle, à avoir mis en place une architecture de surveillance de tout ce qui est désinformation et manipulation de l'information. Donc les Britanniques ont été les premiers à proposer le système des trois I en anglais, le fait d'exposer en fait une mauvaise information pour pouvoir mieux la vérifier, la démanteler et ensuite d'amplifier une réponse possible qui permettrait donc de répondre à cette mauvaise information. Deuxième point qui est important à rappeler, après qui a commencé à savoir répondre, ce qu'il faut rappeler dans le contexte contemporain, c'est qu'on ne répond pas au phénomène de désinformation ou de manipulation de l'information quand on est une démocratie occidentale tout seul. On peut mettre en place des phénomènes, on peut favoriser la résilience des sociétés démocratiques, sans doute, mais si l'on veut être un tout petit peu plus coercitif et se défendre davantage, les exemples montrent, avec les pays baltes, avec les initiatives prises par l'OTAN et l'Union européenne, l'Europe du Nord, que finalement, on est beaucoup plus innovant et efficace à plusieurs, et c'est peut-être même un des atouts de l'Union européenne par rapport à d'autres États comme les États-Unis.
Oui, mais si on entre un peu dans le concret, ça pose une question qui est intéressante sur les manipulations de l'information, qui est la question de la véracité. C'est-à-dire, il peut y avoir une manipulation de l'information avec une information vraie. Notamment, c'était le cas qu'on avait vu au moment des Wikileaks, d'un certain nombre de Wikileaks, c'est-à-dire de documents qui sont révélés massivement, notamment en contexte électoral, ce qui pour autant n'en fait pas des documents faux. C'est-à-dire le fait qu'ils soient révélés avec un objectif d'un acteur derrière qui clairement veut, alors on ne sait pas toujours sur le moment qui c'est, mais clairement qui est l'objectif de peser notamment sur un résultat électoral, ne fait pas pour autant que ce qui est révélé est faux, voire que ce qui est révélé n'est pas important, notamment dans le cadre d'une démocratie libérale. On peut considérer que, par exemple, pour les États-Unis, ce qui a été révélé par les Wikileaks était d'intérêt public. Même en France, alors il y a eu ce qu'on appelle les Macron-Leaks, qui étaient très clairement instrumentalisés, mais tout n'était pas faux dedans, loin de là. Mais le problème, c'est qu'il était difficile sur le moment de savoir ce qui était faux et ce qui n'était pas. Donc ce que je veux dire, c'est que ça pose vraiment la question du statut de l'information. Et voilà, une information vraie, donnée et libérée à un moment opportun, c'est de la manipulation de l'information, mais pour autant, on ne peut pas tout jeter à la poubelle non plus. Je ne sais pas qui... Maxime Audinet ?
Il y a peut-être deux choses à dire. La première, c'est la différence entre l'influence et l'ingérence, c'est-à-dire que, effectivement, lorsque... vous parlez de ce qu'on appelle les opérations de hack and leak, donc de piratage et puis de diffusion d'une information. Lorsque cette opération est menée par une puissance étrangère au sein d'un pays pendant un contexte électoral pour éventuellement modifier en fait et influencer l'opinion publique, ça relève de l'ingérence et ça peut poser un problème. En revanche, sur l'influence, et effectivement, pour reprendre le cas par exemple des médias russes, on aurait totalement tort de croire que RT et Sputnik diffusent à longueur de journée des fausses informations. C'est absolument pas le cas. Il y en a eu quelques-unes, mais l'immense majorité des contenus, c'est plutôt des contenus qui peuvent être tronqués, qui peuvent être parfois tout à fait véridiques, mais orientés, qui peuvent relever d'une ligne éditoriale compatible, en l'occurrence, avec les intérêts de politique étrangère de la Russie. Voilà. Donc là, c'est plus de l'influence. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur la question de la véracité, c'est pour ça que la réponse aux manipulations de l'information et aux influences informationnelles en général, elle ne peut pas se cantonner à ce qu'on appelle le fact-checking ou la vérification des faits. Il y a eu plusieurs institutions, justement, qui ont été mises en place par l'Union européenne, par exemple, pour faire du debunking.
Et puis, par ailleurs, des institutions notamment mises en place par des organismes de presse qui sont organisés ensemble. C'est le décodex du Monde, le Check News de Libération. Enfin, il y a eu des trucs comme ça. Mais pour autant, ça ne répond pas à l'entièreté du problème, notamment quand on parle d'informations vraies, mais relâchées à un moment opportun.
Et peut-être juste, très rapidement, c'est pour ça que ce qui est important, c'est qu'au-delà de ce fact-checking, il faut aussi penser la riposte comme aussi le développement d'un récit positif aussi qui puisse être susceptible de contrer ces récits éventuellement offensifs qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la riposte simplement sur un plan défensif. Il faut aussi derrière être capable, par exemple pour le cas de l'Union européenne, est assez probant. C'est-à-dire l'Union européenne est attaquée sur différents plans à travers des opérations informationnelles. Elle doit être capable aussi de proposer un discours sur elle-même, de développer la notion qui est employée dans l'introduction, un pouvoir discursif positif sur elle-même pour justement répondre à ce genre d'offensive informationnelle.
Oui, alors peut-être un des éléments clés de réponse aussi, c'est une question plus technique qui est celle des phénomènes d'amplification. Tout dépend de l'ampleur que l'on donne à ces diffusions d'informations. La question du fact-checking, je suis entièrement d'accord avec Maxime, est peut-être pas une réponse suffisamment pertinente et efficace. En revanche, les initiatives de l'Union européenne, notamment depuis 2018, sont certainement à souligner encore une fois. Et je renvoie aussi au code de bonne pratique que l'Union européenne diffuse largement. Et parmi ces bonnes pratiques, il y a aussi la nécessité de coordonner les réponses et les stratégies, pas forcément de défense, mais de gestion, en fait, de ces informations diverses et variées, par leur nature. Donc, une coordination avec les acteurs privés, j'en reviens à mes plateformes numériques qui occupent beaucoup l'actualité. Donc, cette coordination entre acteurs étatiques, mais aussi entre acteurs privés transnationaux et acteurs publics ou étatiques, me paraît être particulièrement importante, surtout si on veut répondre par un encadrement par la norme et une réponse normative aux questions que posent les gardes de l'information.
Merci beaucoup, Maud Kessar et Maxime Audinet. Donc, je rappelle donc ce livre qui vient de paraître, Les guerres de l'information à l'ère numérique, dirigé par vous-même, Maud, et Céline Maranger, paru au PUF, et dans lequel on retrouvera bon nombre de chercheurs, notamment l'IRSAM, mais pas seulement, que je recommande donc chaudement parce qu'il couvre vraiment une très grande variété de sujets, une grande variété de cas et une grande variété de dimensions, à la fois, disons, techniques, mais aussi politiques et géographiques. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSAM, qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes et commentaires, notamment sur iTunes ou sur SoundCloud, ce qui aide grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.